on me demande, mais je ne vais pas m'attarder trop, On me dit qu'on ne voit pas très bien l'an en mathématiques. Alors on me dit comment il est né, et à quel moment. Alors je vais être accoucheur de l'an mathématique. Comment il est né et à quel moment. À quel moment il apparaît en premier lieu. Et quel est le contenu de cet an. Le contenu de cet 1, c'est l'être mathématique. Cet 1 mathématique, il naît de l'intelligence. De l'intelligence, alors c'est là la chose très mystérieuse. Pourquoi sont nées les mathématiques? La réponse d'Aristote, il ne faut jamais l'oublier. Les mathématiques sont nées d'Égypte grâce à la caste sacerdotale qui avait des loisirs. Il ne faut jamais oublier cette phrase extraordinaire, évidemment, ce n'est pas l'origine des mathématiques pour donner la signification, c'est l'origine des mathématiques historiques pour essayer de voir comment, de fait, c'est né. C'est curieux parce que ça montre et ça souligne que l'être mathématique et les mathématiques sont nés dans un moment où il y avait un certain bien-être. Et quand Aristote dit ça, c'est pour nous faire comprendre la naissance de la connaissance spéculative. Les mathématiques, c'est le point de départ de la connaissance spéculative, c'est ça l'intérêt. Et c'est ce que Platon a saisi, que c'était comme l'intermédiaire entre la connaissance physique et la connaissance de la philosophie première. C'était comme un intermédiaire, un métaxu. Et c'est vrai, les mathématiques sont d'une certaine manière un intermédiaire. C'est pas purement spéculatif et ce n'est pas pratique. C'est pas de l'ordre pratique, c'est pas de l'ordre du facere, ni de l'ordre de l'agir, c'est un ordre intermédiaire. C'est pour ça que c'est si intéressant de saisir ce que représente le point de vue mathématique, parce qu'il est dans une zone intermédiaire. Alors pourquoi l'un commence-t-il en premier lieu, c'est ça? Pourquoi dans les mathématiques, l'un est avant l'être? C'est ça, je crois, que votre question. Pourquoi dans les mathématiques, l'un est avant l'être? C'est parce que, justement, il y a une formalisation de l'être mathématique qui fait que cet être a sa signification à partir de l'intelligence. Je vous avais dit qu'il fallait toujours regarder les deux possibles. Le possible qui naît de l'inspiration poétique et le possible qui naît de la connaissance mathématique. Le possible qui naît de la connaissance artistique est un possible d'ordre artistique. Quelque chose que je peux réaliser. Et dans ce possible, il faudrait se demander si l'un est antérieur à l'être. Dans le possible mathématique, c'est très net. L'un est antérieur à l'être. Parce qu'il y a une formalisation du possible mathématique qui est beaucoup plus fort, qui est beaucoup plus grand. C'est le divisible. Et le divisible, donc, dans le point de vue qui est donné en premier lieu, et donc qui est tout de suite divisé par l'esprit, et divisé auquel on aboutit à l'indivisé. Donc le terme, c'est l'indivisé, c'est pas l'être, c'est l'un, qui est, j'allais dire, l'élément de l'être mathématique. C'est pas la cause, puisque les mathématiques ne cherchent pas au sens strict, ils ne peuvent chercher qu'une seule causalité, la causalité exemplaire. Donc la seule causalité qu'ils peuvent chercher, c'est la causalité exemplaire. C'est le point de vue de la mesure. Alors, d'une certaine manière, c'est l'un qui mesure. Alors, c'est ce domaine très curieux. Ce serait très intéressant de se demander si justement dans l'ordre du possible, puisque vous avez les deux exemples, le possible artistique et le possible mathématique, est-ce que dans l'ordre du possible, l'un n'est-il pas avant l'être? Oui, ça c'est une chose très intéressante à chercher. Mais c'est une piste que je vous donne, je ne veux pas aller plus loin. Entrons dans la petite topique de la personne. Et essayons donc de comprendre ce que représente cette topique de la personne. C'est difficile à bien voir. Je vous ai rappelé hier la position de la philosophie grecque. Je voudrais maintenant regarder très rapidement la position seconde. Je ne veux pas donner tous les détails. La position des théologiens. Et comme théologien, je prends saint Thomas. Ce serait intéressant de faire une étude sur la personne chez saint Thomas. Je vais simplement, avec vous, vous rappeler quelques points qu'il me semble les points névralgiques qui serait intéressant à étudier chez saint Thomas au point de vue de la personne humaine, de la personne tout court, parce que c'est la personne humaine et la personne divine. C'est très curieux qu'au point de départ, saint Thomas s'appuie sur une certaine tradition qui est la définition de Boès. On doit connaître la définition de Boès. À la suite de Pierre Lombard, il s'appuie sur la définition de Boès, mais il lui donne une nouvelle signification plus métaphysique. Alors c'est intéressant de regarder la manière dont Pierre Lombard regarde la définition de Boès et la manière dont saint Thomas la regarde. Dans le commentaire des sentences, donc c'est toujours le premier lieu de la spéculation de saint Thomas, distinction 25, question 1, article 1er, solution 1. Et puis, dans également, premier livre des sentences, distinction 23, question 1er, article 1. Alors ça, c'est une question un peu classique chez saint Thomas. Ça revient souvent, cette question de la définition de Boès sur la personne. Alors, il commence pour la première fois cette définition. Il commente pour la première fois cette définition. La personne est une substance individuelle d'une nature rationnelle. Ça, il faut savoir ça. Ça fait partie d'un certain bien ecclésiastique. N'est-ce pas ? La personne est une substance individuelle d'une nature rationnelle. Vous voyez, ce qui est intéressant dans cette définition, c'est le petit mélange. Vous avez personne, vous avez substance individuelle, vous avez nature rationnelle. C'est intéressant de voir ça. La personne est une substance individuelle d'une nature rationnelle. Saint Thomas explique que dans la définition de la personne sont impliqués, sont posés trois éléments. Le genre de la réalité. Alors vous voyez comment il va définir par le point de vue logique. On est devant Boès. Le genre de la réalité qui est signifié par le nom de personne lorsqu'on dit substance. La différence par laquelle le genre est contracté à une nature déterminée en laquelle se trouve et posée la réalité qui est personne, ce qui est exprimé d'une nature rationnelle. Rationnelle joue le rôle de la différence spécifique. Et le genre, c'est le point de vue de la substance. Le point de vue sous lequel le nom de personne signifie la réalité individuelle. Je ne sais pas si ça vous satisfait au point de vue proprement logique, c'est assez curieux. C'était intéressant de voir ce premier saint Thomas, très logicien, qui reçoit cette définition de Boès et qui essaie de voir ce point de vue. Substance, donc le genre, nature rationnelle, différence spécifique, individuelle, le point de vue sous lequel on se place. Donc vous avez les trois éléments. 1, 2, 3. Dans la somme, saint Thomas justifie ainsi la définition de Boès. Donc je prends tout de suite les deux extrêmes, sans regarder toute l'évolution intermédiaire. Si la distinction particulière universelle se trouve dans tous les genres, l'individu cependant se trouve dans le genre de la substance d'une manière très particulière. Ah, c'est ici où il est très attentif à ce que représente substance individuelle. Il ne va plus le regarder d'une manière proprement logique, il va le regarder d'une autre manière, je ne dis pas nécessairement métaphysique, mais d'une autre manière, la manière du théologien spéculatif. Donc l'individu dans le genre de la substance se trouve d'une manière unique, car la substance est individuée par elle-même, tandis que les accidents ne sont pas individués par elle-même. Par eux-mêmes. La substance est individuée par elle-même. Les accidents le sont par le sujet, qui est la substance. Et substance première, dans le sens des catégories, substance sujet. C'est pourquoi les individus de la substance ont un nom spécial, les individus dans la substance ont un nom spécial, ils sont dits hypostases. Ah, là, nous voyons toute la grande tradition, c'est très très curieux. c'est très intéressant à regarder de près, c'est à la loupe. Hypostase, ils sont dit hypostase, donc les individus dans la substance, puisque la substance s'individue par elle-même, ont un nom particulier. Ils sont dit hypostase, ou substance première, le sujet existant capable de recevoir les accidents. Vous voyez la petite salade, hein? Une salade intelligente, mais c'est une salade. Hein? Saint Thomas précise encore, l'individu est ce qui est en soi indistinct et distinct des autres. Ça, c'est l'aliquid. C'est ça l'individu, c'est aliquid et castum. Il précise, l'individu est ce qui est en soi indistinct et distinct des autres, et donc incommunicable. Donc voilà l'hypostasis, c'est l'individu, c'est ce qui est incommunicable, c'est le tout. Cette idée du tout est très curieuse, notamment elle va insister là-dessus. Donc l'hypostasis, c'est la substance individuelle, c'est le sujet au sens propre, c'est-à-dire la substance première telle, que ça, telle qu'Aristote les donne dans les catégories. De plus, le particulier et l'individu, dans les substances rationnelles, qui ont un dominium sur leur acte, elles ne sont pas seulement mues, mais agissent par elles-mêmes, se réalisent selon un mode plus spécial et plus particulier. Les actions se réalisent toujours d'une manière singulière. C'est pourquoi, parmi les substances, seules les substances singulières de nature rationnelle portent un nom spécial, on les appelle personnes. Vous voyez que le mot « personne » est rattaché au dominium. C'est ça qui m'intéresse ici. Ce n'est pas l'aspect métaphysique premier qui est l'aspect de l'ontologie de la substance individuelle. La substance individuelle, hypostasis. Mais il y a quelque chose de particulier dans ces substances individuelles qui sont spirituelles, qui impliquent une nature rationnelle, c'est qu'elles ont un dominium sur leur âme. Donc c'est l'idée de dominium que saint Thomas ne donnait pas dans les sentences et qu'il donne ici dans la somme. Cette idée de dominium, on le sait très bien, chez saint Thomas, ça joue un rôle extrêmement important, le dominium. Hein. Traduisez ça comme vous pouvez, c'est-à-dire la capacité que nous avons de dominer sur nos actes. Le velle et domina actus sui. Le velle, c'est l'expression que prend saint Thomas. Domina actus sui. Par la volonté, je domine sur mes actes. Et c'est pour ça que je suis responsable. Le fondement de la responsabilité, c'est le dominium. Quand vous n'êtes pas responsable, vous êtes irresponsable. Vous savez bien. La distinction qu'on fait entre les responsables et les irresponsables. Alors, il y a c'est celui qui domine qui est responsable. Celui qui est dominé, il n'est pas responsable. Il se laisse conduire. Alors, il n'est pas responsable. C'est le dominium qui va définir la personne. Et le dominium provient du fait qu'on est capable d'orienter ses activités, proprement dites. Donc dans la somme apparaît l'idée de dominium, qui va jouer un rôle très important dans saint Thomas, dans toute sa morale. C'est la question de l'image de Dieu qui est dans nous. Par où on est responsable de nos actes. Il faut donc, dans la définition de la personne, in communi, dit saint Thomas, poser la substance individuelle, qui signifie le singulier dans le genre de la substance, ajoutée de nature rationnelle, pour signifier le singulier dans les substances rationnelles. La personne dans la nature rationnelle signifie ce qui est distinct dans cette nature. Mais c'est l'individu de cette nature. L'individu qui est capable de poser des actes, puisque les actes sont toujours singuliers. Donc l'individu est toujours, la personne est toujours liée à l'individu. Vous voyez, c'est intéressant pour la position de Maritain. C'est intéressant. Là, j'ai directement saint Thomas. Hein. Je n'interprète pas. Je ne peux pas séparer de ma conception de la personne l'individu. Pourquoi ? Parce que la personne, c'est ce qui domine, c'est ce qui est capable de dominer ses actes, et les actes sont toujours singuliers. Donc, la personne est toujours singulière et elle est toujours individuelle. D'autre part, la personne, c'est aussi ce qui est indistinct, c'est ce qui est distingué des autres et qui en soi-même est individu. Certes, le singulier ne peut être défini, il est ineffable. Mais on peut préciser la raison commune de la singularité. Donc, c'est une définition toute différente. Hein. Regardez les sentences et regardez la somme, vous voyez qu'entre deux, il y a tout une élaboration qui s'est faite. On retrouve la même définition de Boès, c'est bien évident. Saint Thomas n'est pas révolutionnaire pour le plaisir d'être révolutionnaire. Il se sert de la définition de Boès, il prend la définition de Boès, mais c'est un fil conducteur. Et sur ce fil conducteur, il se conduit pas si mal, bon, pour retrouver de fait le point de vue métaphysique. Donc on passe de la logique à un aspect métaphysique qui inclut l'éthique. Très curieux. Au fond, la personne, c'est la frontière entre le point de vue éthique et le métaphysique. C'est peut-être ça qui est le plus intéressant à voir. Vous vous souvenez, au début de l'année, je vous avais dit, pas de métaphysique sans éthique. Hein? Vous savez bien, pas de métaphysique sans éthique. Si vous faites une métaphysique à l'état pur, oubliant l'éthique, vous faites une mauvaise métaphysique. Il faut découvrir ce que représente le point de vue éthique et le point de vue métaphysique, parce que toujours, c'est les deux pôles, l'être et le bien. Eh bien, qu'est-ce qui fait le lien entre les deux? C'est la personne. La personne est le nœud entre l'éthique et la métaphysique. Vous voyez l'anthropologie? Comment Saint Thomas a compris l'anthropologie? Une anthropologie personnelle. L'anthropologie, c'est étudier la personne humaine. Et vous êtes là, au carrefour des deux. Vous ne pouvez pas regarder la personne uniquement au point de vue éthique. C'est l'erreur de Kant. Et c'est pour ça qu'il est obligé de prendre le point de vue de l'impératif catégorique qui s'appuie sur Dieu. Vous ne pouvez pas regarder la personne uniquement au point de vue métaphysique. Vous prenez le dominium. Et donc vous la regardez par rapport à ses activités. Et ses activités libres. C'est très curieux. Hein? C'est très très fort, vous savez. Parce que nous, on prend ça, on lit comme ça, c'est très bien. Mais c'est très intelligent d'avoir fait ça. Hein? C'est très intelligent d'avoir compris que de fait, la personne fait le joint entre substance individuelle. Là, vous êtes en plein dans le point de vue métaphysique. Substance individuelle. Puis, elle domine sur ses actes. Dans l'article suivant, saint Thomas montre comment personne signifie dans le genre des substances rationnelles ce que la res naturae subsistentia hypostasis signifiait dans le genre des substances. Et ça, c'est aussi très intéressant. C'est donc l'hypostase d'une nature rationnelle. Simplement ça. C'est l'hypostase d'une nature rationnelle. C'est une subsistance d'une nature rationnelle. La personne est donc bien res naturae. Elle est une réalité de la nature. Subsistance, hypostase, mais dans l'aspect rationnel. Donc l'aspect de l'esprit. Oui. Donc les deux aspects, c'est le point de vue métaphysique et le point de vue de l'esprit. On est obligé de mettre en lumière l'esprit, ce que je vous avais dit au début de la personne hier, tu vois, qu'avec le problème de la personne, on est dans la confrontation de la rencontre de l'être et de la personne. Et c'est pas si commode que ça de comprendre comment, d'une certaine manière, on pourrait voir que la personne va dominer l'être, dominium. Alors jusqu'où va-t-elle dépasser ses activités? Et comment l'être, d'une certaine manière, me permet de définir la personne. Il faut saisir que le nom de personne signifie la substance, et donc elle est ad se, et non ad alterum. Il signifie la réalité, le nom de personne, signifie la réalité subsistant dans telle nature, et donc exprime chaque chose, exprime quelque chose d'incommunicable. La personne, c'est l'incommunicabilité. Au point de vue métaphysique. C'est quelque chose d'ultime, c'est quelque chose qui implique un tout. Juste inverse de la partie. Et c'est donc ad se. C'est ça qui est important à saisir. Puisque la personne signifie ce qui est le plus parfait dans toute la nature, ce qui est le plus parfait dans toute la nature, subsister dans la nature rationnelle, on peut l'attribuer à Dieu. C'est ce qui est le plus parfait parmi les res naturae. parmi les réalités individuelles, la réalité la plus parfaite, c'est la personne. Ceci, prima pars, question 29, article 3, sont des lieux bien connus, n'est-ce pas ? Alors, c'est le point de vue important de saisir, et c'est intéressant de voir cela, que saint Thomas souligne que c'est le plus parfait dans toute la nature. Il y a l'idée de perfection dans la personne. Il y a l'idée de plénitude, incommunicable. Donc, l'autonomie incommunicable, c'est justement par où on est absolument distinct des autres. Et alors, saint Thomas rappelle, selon l'origine sémantique, le nom de personne ne peut convenir à Dieu, mais selon l'usage de la signification du mot, c'est différent. Le mot personne, en effet, indique une dignité, car il est d'une très haute dignité de subsister dans une nature intellectuelle. Le mot personne convient donc parfaitement à Dieu. Et la dignité, la question de la perfection et de la dignité sont liées à la personne. L'aspect de la perfection et l'aspect de la dignité. Donc la personne convient parfaitement à Dieu parce qu'elle n'implique aucune imperfection. Évidemment, Dieu est dit personne selon un mode plus excellent, éminemment. Saint Thomas précisera à l'article suivant ce qui caractérise la personne divine. En Dieu, personne et individu ne font qu'un. La personne de Dieu est donc son essence, sa nature, mais elle diffère selon le modus significandi, selon la manière de parler. La personne signifie per modum subsistentis, c'est ça qu'il faut bien comprendre, donc c'est quelque chose de concret. Per modum subsistentis, par mode de subsistant. C'est ça le propre de la personne quand j'attribue à Dieu, c'est par mode de subsistant. Le nom propre de chaque personne divine signifie ce par quoi cette personne est distincte des autres. Alors, tout le grand problème ensuite, je vais simplement l'évoquer, parce que nous n'avons pas le temps de regarder ça plus longuement, je voulais simplement vous rappeler l'aspect des sentences logiques, l'aspect métaphysique, l'aspect de la somme où on réintroduit la métaphysique. On l'introduit à sa manière, avec les catégories, on pourrait discuter là-dessus, mais c'est très nettement un aspect ontologique. Et l'aspect du dominium intervient. Et de cette définition, je vois que la substance, c'est ce qu'il y a de plus parfait, c'est quelque chose qui est ad se, c'est-à-dire quelque chose qui est premièrement l'autonomie d'un être, l'autonomie parfaite d'un être, tellement autonome qu'il est maître de ses activités. Il y a un second aspect dans saint Thomas qu'il faut bien comprendre, très différent, c'est d'essayer de comprendre comment on va attribuer aux personnes divines dans leur propre distinction, ce qu'est la personne. Alors ça, c'est la gymnastique extraordinaire au point de vue théologique, voir comment c'est l'art qui va être attribué à la personne du Père pour comprendre que la personne du Père, c'est un art subsistant. Il faut sentir métaphysiquement ce que ça représente. Et sentir quelque chose qui semble juste l'inverse de tout ce qu'on a dit précédemment. C'est là où c'est ce que c'est que l'analogie. Hein. Ici, j'ai dit que le point de vue de la personne, c'est ad se. La personne, c'est ce qui subsiste en soi, ce qui subsiste par soi. Donc, c'est l'aspect de la subsistance. La subsistance est toujours quelque chose qui regarde au point de vue de la substance. La personne est liée viscéralement à la substance. Ça, ça ne peut pas être autrement. Elle n'est pas premièrement tournée vers les autres. Ça, c'est du moderne. La personne est d'abord tournée vers les autres. Mais c'est très bien, mais si elle n'est pas tournée d'abord vers soi, il n'y a plus rien à donner vers les autres. Hein. Alors on donne le vide métaphysique aux autres. Parce qu'on est tourné vers les autres d'abord, ad alterum. Alors que pour saint Thomas, la substance, la personne, c'est d'abord quelque chose qui subsiste. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde au point de vue de la très sainte Trinité? On se trouve devant la simplicité absolue de Dieu et puis trois personnes en Dieu. Alors à ce moment-là, on est obligé d'une purification extraordinaire de la personne pour voir que la personne, c'est la relation dans ce qu'elle a de plus pur, l'art, donc le regard vers l'autre, en supprimant l'île, parce que la relation dans les réalités créées implique l'ad et l'in. L'in, c'est l'inhérence dans le sujet, c'est d'être dans, tandis que ad, c'est d'être vers. Alors la personne dans la très sainte Trinité, c'est l'ad qui n'implique aucune perfection nouvelle, mais qui subsiste. Vous voyez, vous avez la substance qui subsiste et vous avez l'ad qui subsiste. Métaphysiquement, vous savez, c'est quand même quelque chose, hein, d'arriver à affirmer ça. Il faut sentir, c'est quand même quelque chose d'invraisemblable, de dire un ad qui subsiste. Et cet ad qui subsiste va nous faire comprendre ce qu'est la personne divine. Alors, la seule chose qui continue d'être commune, c'est la subsistance. Hein. C'est l'ad qui subsiste, là c'est ad c'est là ad vers l'autre. Donc c'est juste inverse, c'est pas contradictoire. C'est la seule chose que vous pouvez sauver. C'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire parce que, de fait, vous pouvez comprendre qu'à l'intérieur même de l'unité de Dieu, il peut y avoir cette distinction. Et ça n'entre pas dans le mystère de la très sainte Trinité, n'est-ce pas ? Parce qu'alors on resterait indéfiniment dedans, n'est-ce pas ? Troisième position de saint Thomas, je crois qu'il faut regarder les trois positions successives. Ici, je suis dans le De Deo Uno. Alors, j'insiste énormément sur la substance qui subsiste et la personne qui me fait comprendre ce caractère absolu de la substance individuelle. Ici, je suis dans le mystère des trois personnes divines. Et quand je suis dans le mystère de l'union hypostatique, le mystère du Christ, je vois deux natures qui subsistent dans la même personne. C'est la personne du Verbe qui assume la nature humaine. Et cette nature humaine subsiste dans le Verbe. Alors ici, qu'est-ce qui va être mis surtout en lumière ? Ça qui m'intéresse, qu'est-ce qui va être mis surtout en lumière, c'est que la personne, c'est le tout. Saint Thomas l'avait déjà dit, c'est le tout. C'est l'incommunicable. Oui, c'est l'incommunicable qui, cependant, assume la nature. C'est très important de voir que la personne peut assumer, elle demeure incommunicable. Et par là, la nature humaine va subsister dans le Verbe. Et la nature humaine devient partie, en comprenant bien. Elle devient partie. Une partie qui implique une nature, qui implique une substance, mais elle devient partie. Et elle subsiste dans l'unique personne. Et donc là, je vois surtout la personne comme tout. Alors c'est assez curieux de voir ces trois aspects successifs. Et c'est ça qui serait intéressant à creuser. De voir que ces trois aspects successifs vont me mettre en lumière trois aspects de la personne. Et que la personne implique les trois. La personne implique bien le côté de l'individuation substantielle, d'une nature rationnelle. La personne implique bien le point de vue de l'art. Oui, le demi-lune. La personne implique bien le point de vue du tout, elle ramène tout à elle-même. Personne, c'est un tout, l'autonomie absolue qui fait que forcément quand j'agis dans mon nom personnel, et ça se ramène à ma propre activité. Donc il y a le tout. Alors je crois que c'est intéressant au point de vue proprement philosophique d'essayer de comprendre dans ces différents lieux, saint Thomas nous donne de fait une vision de la personne sous différents aspects. Alors, ne laïcisons pas les passages de la théologie, parce que, vous voyez, si je laïcise, je dis, ah oui, la personne, c'est tout entier tourné vers l'autre. Attention, la très sainte Trinité, je ne dis pas que je la comprends, mais je ne peux en parler qu'à partir de la simplicité de Dieu. Et quand je vois la simplicité de Dieu, je vois que Dieu est la réalité la plus parfaite. Donc il est personne. Il a la réalité la plus parfaite. C'est à l'intérieur de cette réalité parfaite et absolument simple que je distingue la personne. Donc l'ad vient en second lieu. 1, 2, 3. Il y a un ordre. Je ne pourrais pas parler du 2 si je n'avais pas parlé du 1. Et je ne peux pas parler du 3 si je n'avais pas vu le 2 et l'1. Je ne sais pas si vous voyez suffisamment. Ça fait 3 visions successives sur la personne. Et ces 3 visions successives sur la personne me font comprendre comment saint Thomas, lui, en tant que théologien, il a ruminé sur la personne, et fameusement. Peut-être un des points sur le saint Thomas a le plus poussé sa spéculation, je crois. C'est un des points sur lequel il a plus poussé sa spéculation. Parce qu'il a vu que c'était de la pièce maîtresse au point de vue proprement théologie scientifique. C'était la personne. Vous voyez, toute la clé de la simplicité de Dieu, substance individuelle, qui subsiste en elle-même. Toute la clé du mystère de la très sainte Trinité, l'âme subsistante. Il faut arriver à ça, hein, ça montre une espèce de limpidité dans le regard. Et puis, le point de vue du tout, le point de vue de la subsistance. Alors, il faudrait ajouter le troisième, ce qu'on a ajouté ensuite, le quatrième moment. Hein. La subsistance mystique du corps mystique. La subsistance mystique. Hein. Vous êtes au niveau de la personne. Quasi una persona. Le corps mystique. Quasi una persona. Avec le Christ. La subsistance mystique. Ça, c'est le quatrième moment. C'est tout le mystère de l'Église, vu dans le prolongement du mystère du Christ. C'est encore la personne. Alors, c'est très peu développé dans saint Thomas. Ça a été développé ensuite. Mais c'est très peu développé dans saint Thomas. Ça a été développé dans les grands théologiens thomistes qui ont essayé de comprendre, au point de vue proprement ontologique, qu'est-ce que nous pouvions dire sur ce prolongement. Mais évidemment, ça n'apporte pas grand-chose au point de vue proprement spéculatif. Hein. On est au point de vue mystique. Dès qu'on est au point de vue mystique, c'est le point de vue de l'amour, et donc ce n'est plus le point de vue proprement ontologique. Donc ce qui m'intéresse ici, voilà, c'est de comprendre ces 3 moments successifs. Je ne dis pas plus. Hein. Si nous avons le temps, nous y reviendrons au terme. Parce que c'est intéressant de voir comment saint Thomas, de fait, a vraiment réfléchi sur une métaphysique de la personne. Il n'aurait pas pu dire ça s'il n'y avait pas une métaphysique de la personne. Mais il ne nous l'a pas donné. Il ne nous l'a pas donné. Et c'est très curieux de voir que c'est un fait que les thomistes, quand ils ont essayé de comprendre ce que était la métaphysique de saint Thomas, ont oublié la personne. Suarez. Ils ont oublié la personne. Ils ont beaucoup spéculé sur l'idée d'être, sur la ratio entis, sur les transcendentaux, ils oublient la personne. Alors que je crois que pour saint Thomas, c'est la clé de voûte par rapport à sa métaphysique, par rapport à son éthique. Et c'est la clé de voûte qui va servir pour lui d'unir le traité des Néonos, le traité de la très sainte Trinité, le traité, parce que je l'ai oublié ici, mettez-le, hein, le traité de la théologie morale, le Dominium. Tout le traité de la théologie morale est dans la lumière du Dominium. La théologie morale de saint Thomas repose sur le Dominium. Ça, il ne faut pas l'oublier. Le velle domina actus sui. Et donc, ça, c'est vraiment le point de vue. Alors, ça, c'est la personne. Donc, vous voyez comment, au fond, le point de vue de la personne nous donne comme la clé de toute la théologie de saint Thomas. Et à partir de là, on peut dire qu'il y a toute une métaphysique de la personne. Mais ce qui me semble très étonnant, c'est que ça a été oublié. Ça a été développé. Cherché dans Suarez, le traité métaphysique de la personne. Ce qui est sûr, alors c'est ça qu'il faut retrouver. Je prends simplement des coups de sonde. Ce qui est sûr, c'est que le problème de la personne reprend une très grande valeur dans la perspective moderne. C'est peut-être, là aussi, on pourrait dire, je ne dis pas la clé de voûte de la philosophie moderne, parce qu'il n'y a pas de clé de voûte, mais c'est le passe-partout. C'est pas la même chose, vous voyez ? C'est autre chose. Alors, vous essayez de découvrir comment, dans la philosophie moderne, contemporaine, dans la préoccupation des philosophies modernes, il y a quelque chose qui préoccupe tous les philosophes. Qu'est-ce qui est au cœur de la phénoménologie ? Qu'est-ce qui est au cœur de l'existentialisme ? C'est la personne et la liberté. Je vous ai dit, en philosophie grecque, c'est le problème de la liberté qui a conduit au problème de la personne. Eh bien, en philosophie moderne, on peut dire que le passe-partout, c'est la liberté et c'est la personne. Alors, il faudrait regarder dans la philosophie actuelle, si vous voulez, les 50, 100 dernières années, quoi, à peu près, 70 ans, 50 ans, voir comment le problème de la personne s'est développé du côté psychologique. C'est vraiment un passe-partout. Donc par là, vous joignez la psychologie. Quand vous vous demandez quels sont les liens entre la métaphysique et la psychologie, à première vue, vous avez envie de dire aucun. Aucun. Tout à fait. En métaphysique, nous volons une hauteur, je ne dis pas la hauteur, et en psychologie, vous restez sur le terrain, vous avez beaucoup de peine à vous envoler. C'est vrai, la psychologie ne doit pas s'envoler. Un bon psychologue reste sur le terrain. Il doit rester sur le terrain. À première vue, il semble qu'il n'y ait rien de commun. Eh bien, la notion de personne, la réflexion sur la personne va nous permettre de comprendre le lien qui existe entre la psychologie et la métaphysique. C'est pour ça que c'est un pas important. Je dis, c'est vraiment ce qui va permettre de voir tous les liens. Vous pourriez faire la même chose pour le point de vue politique. La personne va jouer un rôle très très grand au point de vue politique. Individu et personne, nous connaissons cette distinction. Individu et personne, pour nous faire comprendre le lien entre la politique et le point de vue métaphysique. Même si cette distinction n'est pas tout à fait adéquate, elle est quand même intéressante. Alors, je rappelle, au niveau psychologique, il faut comprendre que les grands psychologues, ici je parle par exemple de Charles Baudouin ou de Charles Audier, tous les deux nous donnent, je crois que c'est eux qui ont le mieux découvert ce que c'est que la personne. Découvert dans l'ouvrage de Charles Baudouin, Découverte de la personne, qui est dédié à Bergson, dont les cours sur la personnalité furent pour l'auteur une décisive incitation. C'est intéressant de voir comment le philosophe a secoué le psychologue. Et c'est par la personne. Comporte une confrontation assidue de l'enquête psychologique et de la dialectique philosophique. C'est lui qui dit ça, c'est intéressant. La dialectique philosophique, nécessairement. Charles Baudouin estime que l'opposition ne se situe pas entre matière et esprit, mais entre le principe d'objectivité de toute science d'une part et le principe du sujet de la personne humaine d'autre part. Ah, c'est très intéressant. Là aussi, c'est intéressant de voir ce que je vous avais dit au début. L'être et l'esprit. L'aspect de la subjectivité transcendantale, la personne, qui domine l'objet. Je ne peux pas connaître la personne sans voir le primat de la subjectivité. Et ce qui était toujours ça, regardez, dans la querelle théologique d'aujourd'hui entre le point de vue de la morale de la nature et la morale de la personne, c'est exactement ça. La morale de la nature, ce sont les lois. La morale de la personne, c'est la subjectivité, c'est la conscience, morale de situation. Puisque dans les circonstances particulières, vous voyez l'opposition. Baudouin souligne bien ça, c'est intéressant, parce qu'il l'a souligné avant que les théologiens l'ont dit. Et les théologiens n'ont fait que répéter ce qui était dit là. Et que de fait, il y a là un problème très très important, et que le psychologue souligne qu'avec le problème de la personne, je suis en face d'un problème d'absolu au niveau de la subjectivité. La personne, en dernier lieu, dans la perspective psychologique, la personne en dernier lieu est son maître. Domina actus sui. Elle domine pleinement ses activités, elle est parfaitement maître. Donc, il y a là un très grand problème. Je crois que la psychologie, dans ce qu'elle a d'important, termine toujours au problème de la personne. Alors, je dis un mot sur Charles Audier, parce que c'est quand même intéressant de voir comment Charles Audier essaie de voir comment la personne se précise au niveau psychologique. Alors, il faut retenir ces deux aspects qui sont très simples et qui sont importants et qui expliquent des quantités de choses du récit, si on veut un peu les comprendre. Si on veut saisir le lien entre la philosophie première et le point de vue de la psychologie. Alors, il faut comprendre bien cela. C'est la recherche des sentiments du moi. Je suis en psychologie. Et le moi personnel, hein. Pour le psychologue, c'est le moi personnel. Les sentiments du moi. Tâtez-vous le pouls. Les sentiments du moi. Qu'est-ce que c'est que les sentiments du moi? Dans la construction propre de ce que représente la personnalité. Parce qu'au fond, le psychologue, c'est la personnalité, c'est pas la personne. Oui, oui. Bon. Il faut vous asseoir. Alors, quand vous regardez les sentiments du moi, vous voyez dans le développement de la personnalité, les développements du moi qui vont dans les trois grandes directions. C'est ça qui est intéressant à voir. Les trois grands sentiments du moi. Les sentiments du moi qui sont l'autonomie, le point de vue de la sécurité et le point de vue de la valorisation. Je crois que c'est très juste. Dans la construction d'une personne, d'un moi fort, d'un moi personnel fort. Mais écoutez, c'est un spectacle que vous venez ici. Ah non, vous savez, je ne tolère pas ça à moi. Un cours, c'est plus sérieux que ça. Croyez pas? Bon, je l'arrête. J'espère que vous comprenez.